Pourquoi je fais du théâtre ?
Le théâtre n'existe pas.
C'est Corneille qu'on assassine.
Les grands acteurs rêveront de jouer Cyrano, les jeunes actrices rêveront de jouer Roxane. Et...
tout le monde se souviendra du nom d'Edmond.
Et tout le monde aura oublié le nôtre.
Une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux.
Tonnerre de Brecht, votre rendez-vous théâtral sur Syllab.
Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes très heureux et heureuses de vous retrouver sur Scylla pour un nouveau numéro de Tonnerre de Brecht. Salut Léa.
Salut Martin, même les jours fériés, nous sommes toujours au rendez-vous dans votre transistor.
Et ce soir, nous vous invitons pour un voyage autour de notre chère planète en compagnie de Camille Golan, chargée des projets culturels et des publics à la Maison des Cultures du Monde de Vitré.
Bonsoir à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve dans quelques instants pour parler ensemble de l'exposition « Du terrain à la scène » retraçant 40 ans de découverte des spectacles du monde et qui se tient jusqu'au 18 septembre prochain.
Mais avant de prendre place à bord de notre coucou et d'attacher nos ceintures pour survoler l'histoire et le monde, faisons local avec les actus.
Nous les avions reçus il y a quelques semaines et ils et elles étaient venus nous présenter leur nouvelle proposition théâtrale. La compagnie Les Corias joue Pochade millénariste ce dimanche 29 mai à 15h à la Salle de la Cité en plein centre de Rennes. Cette pièce d'Eugène Durif donne la parole aux exclus, aux laissés pour compte qui, à la veille du nouveau millénaire, sont poursuivis par des brigades humanitaires. Nous vous invitons chaleureusement à aller voir ce spectacle à l'image de la proposition de la compagnie, humaniste et rebelle. Pochade millénariste d'Eugène Durif, mise en scène par les Corias, le 29 mai à 15h à la Salle de la Cité.
Depuis hier a débuté le 38e Festival amateur de théâtre de Josselin. Le festival de théâtre, c'est 4 jours de fête de théâtre. Vous avez rendez-vous dans les salles de théâtre pour découvrir des spectacles des troupes du Grand Ouest, mais pas que. Le festival, c'est aussi des spectacles à domicile, en jardin, en lieu atypique. Une journée de théâtre jeune, du théâtre en chantier, des impromptus et autres performances à découvrir tout ce week-end à Josselin.
Et enfin, à partir du 7 juin au TNB, vous pourrez assister au spectacle Noir de Tania de Montaigne et Stéphane Fonkinos. 2 mars 1955, Claudette Colvin, 15 ans, refuse de céder sa place à une femme blanche dans un bus de Montgomery, capitale de l'Alabama. Bien avant Rosa Parks, l'adolescente ouvre aux États-Unis la voie du mouvement des droits civiques. Sur un décor de tulle noire sont projetées des images de la vaste Amérique. On entend les voix de chanteuses noires. Tania de Montaigne devient conteuse, elle va et vient sur le plateau, ce n'est pas du théâtre, c'est mieux, un témoignage revenu du passé qui donne vie aux invisibles à partir du 7 juin, Noir à découvrir au TNB.
Dernier checkpoint avant le départ avec une première pause musicale et Bianca Costa et son morceau Falala en feat avec Bolem.
Tu parles du fait d'or dans l'enfant d'or. J't'ai assez écouté, mais là c'est trop. Que des mots, des mots, des mots. Mais c'est fini, maintenant Carla.
Mais l'on
C'était Falala de Bianca Costa, feat. Bolem. Vous êtes toujours sur Syllabe dans Tonnerre de Brecht. À nos côtés ce soir, Camille Golan, chargée des projets culturels et des publics à la Maison des Cultures du Monde de Vitré. Rebonsoir à vous. Bonsoir surtout.
Bonsoir.
Et encore merci d'avoir accepté notre invitation.
On se rencontre ce soir pour parler de l'exposition Du terrain à la scène, 40 ans de découverte des spectacles du monde, qui se tient depuis le 19 mars dernier. Avant de parler de l'exposition proprement dite, j'aimerais qu'on revienne sur les origines et la généalogie du lieu. Tout d'abord, qui sont les personnes à l'initiative de cette maison ?
Alors, la Maison des Cultures du Monde a été fondée en 1982 par Chérif Kaznadar et son épouse Françoise Grund. À cette époque-là, Chérif Kaznadar sortait de sa direction de la Maison de la Culture de Rennes, qui avait été un lieu de préfiguration de la Maison des Cultures du Monde, notamment à travers le Festival des Arts Traditionnels.
Et quels étaient les objectifs de Françoise Grund et Chérif Kaznadar en créant le Festival des Arts Traditionnels ?
C'était de mettre en valeur des expressions traditionnelles du monde dans les domaines artistiques issus du théâtre, de la danse, de la musique, qui étaient alors méconnues en France, et donc de les faire connaître au public français et de leur donner finalement une place équivalente aux expressions artistiques qui étaient alors les plus mises sur le devant de la scène, plutôt des créations européennes.
Et on imagine aisément qu'il n'est pas facile de faire venir toutes ces formes spectaculaires traditionnelles jusqu'à chez nous. Comment s'établit le contact entre la Maison des Cultures du Monde et les artistes étrangers ?
Alors, dans un premier temps, j'essaie de retrouver mes mots. La Maison des Cultures du Monde s'est vraiment spécialisée dans la prospection, c'est-à-dire d'aller directement dans les pays pour rencontrer les artistes sur place, dans un contexte de jeu. Ça peut être à l'occasion de fêtes, de cérémonies rituelles ou de représentations musicales. Et du coup, c'est cette rencontre directement sur le terrain qui a fait une des spécialités, puisque à partir de cette rencontre-là, eh bien, est conçu le spectacle pour qu'il puisse s'adapter ensuite à un contexte de jeu en France, soit sur une scène de théâtre, ou encore, ça peut être aussi des représentations en extérieur, comme des déambulations dans la rue ou dans des lieux un petit peu plus originaux, on va dire, qu'une salle de spectacle.
Et ces rencontres-là qui se font, les premières rencontres, est-ce qu'elles ont évolué entre aujourd'hui et il y a 40 ans du coup ?
À l'origine, c'était beaucoup de prospection, on va dire, en interne, c'est-à-dire qui était réalisée par l'équipe de la Maison des Cultures du Monde. On continue à faire des prospections, mais de plus en plus, on s'appuie aussi sur l'expertise d'ethnologues, d'anthropologues. C'était déjà le cas à l'époque. C'était plutôt des collaborateurs qui permettaient de rencontrer les artistes. À présent, on ne fait pas automatiquement des prospections sur le terrain, mais on va directement s'appuyer sur ces jeunes chercheurs, ou pas forcément jeunes d'ailleurs.
Et justement, on vient de parler un peu des chercheurs et des chercheuses et des ethnologues. Mais quelle est l'essence de cette discipline qu'est l'ethnologie ?
L'ethnologie, c'est une discipline qui, pour simplifier, étudie les modes de vie humains et l'homme en société. Dans le cadre de la Maison des Cultures du Monde, on travaille particulièrement avec des ethnomusicologues, donc qui vont plutôt étudier les phénomènes musicaux.
Et la Maison des Cultures du Monde se nourrit justement des prospections des chercheurs et des chercheuses universitaires, mais l'inverse est également vrai. Elle a même contribué à fonder une discipline universitaire. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça ?
Alors, c'est une discipline qui s'appelle l'ethnocénologie, qui est une sorte de dérivé de l'ethnomusicologie, qui permet de je ne vais pas réussir à trouver mes mots. c'est une discipline qui étudie les arts du spectacle, mais dans un contexte ethnologique, avec un regard ethnologique.
De quelle manière encouragez-vous la recherche à la Maison des Cultures du Monde, du coup ?
Nous collaborons, comme je vous l'ai dit, régulièrement avec des ethnologues, des anthropologues, et donc spécialisés dans des domaines comme celui de l'ethnomusicologie. Nous avons également mis en place depuis 10 ans le prix de la Maison des Cultures du Monde, qui a pour objectif de récompenser un jeune chercheur ou une jeune chercheuse en sciences humaines autour d'un projet original qui est quasiment méconnu en France. Donc ça peut être par exemple une cérémonie rituelle dans un pays particulier, autour d'une fête particulière, mais qui est en fait très peu connue. Et donc ce prix vise à faire venir ces artistes en France lors d'un autre festival qui s'appelle le Festival de l'Imaginaire.
Et depuis 40 ans, du coup, la somme de toutes ces prospections-là a donné comme résultat une très grande quantité d'archives que l'on retrouve pour certaines dans l'exposition. Le progrès technique a-t-il eu un impact sur les méthodes de prospection des chercheuses et ethnologues ?
Incontestablement. À l'origine, nous en tout cas, quand on a fait les recherches pour cette exposition, l'exposition du terrain à la Seine, on est parti du constat qu'il y avait énormément d'archives photographiques, mais aussi sonores. À l'origine, on avait des bandes magnétiques, après on est passé à différents supports. À présent, on est sur des archives numériques. Mais tout cela, ça, finalement, ne trouvait pas forcément sa place, n'était pas valorisé, c'était stocké. C'est une des grandes forces de la Maison des Cultures du Monde, c'est d'avoir su archiver tout son travail, mais sans forcément valoriser ses archives, ses à-côtés. Et donc, notre travail, ça a été de sortir toutes ces archives, de numériser ce qui ne l'était pas, de créer aussi des dispositifs autour de compréhension de ces archives pour pouvoir les remettre au goût du jour. Et pour cela, heureusement, on a conservé des lecteurs de différentes époques qui nous permettent toujours de consulter ces anciennes archives. Évidemment, à présent, c'est beaucoup plus simple. La collecte, elle se fait de manière plus aisée avec le numérique, avec Internet. On peut aussi plus facilement s'envoyer des fichiers, travailler avec les artistes à l'étranger, les interprètes à l'étranger. Avant, c'était simplement sur le temps d'une semaine ou 2 semaines de prospection. Il fallait prendre les photos, faire les enregistrements, et puis on se revoyait la veille ou l'avant-veille du spectacle.
Et est-ce qu'on peut avoir accès aux archives de ces prospections ?
Tout à fait. Elles sont mises en ligne sur la base de données de la Maison des Cultures du Monde qui s'appelle Imbatuta, qui est accessible depuis le site internet de la Maison des Cultures du Monde. Pour l'instant, ce qui est le plus mis en ligne, ce sont les spectacles en tant que tels qui ont été présentés en France. Tous les spectacles ont été filmés ou pris en photo, enfin souvent les deux d'ailleurs, et parfois enregistré et même mis enregistré sous forme de disque on a un label de CD. Donc tout cela est accessible, et pour ce qui concerne les archives de terrain, les prospections, on peut retrouver quelques photos, quelques vidéos qui sont aussi mises en ligne, et nous on a fait aussi tout un travail de sélection. Et on a créé des petites capsules vidéo qui sont visibles dans l'exposition, mais qu'on met aussi progressivement en ligne via notre newsletter et sur notre chaîne YouTube.
Et le temps fort de la Maison des Cultures du Monde, c'est le Festival de l'Imagère qu'on a un peu évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'on a déjà une idée un peu de la programmation qui va venir ? Et quand est-ce que ça se fait d'ailleurs, le Festival de l'Imaginaire ?
Alors cette année est une année un peu particulière puisque donc nous fêtons les 40 ans de la Maison des Cultures du Monde. d'où cette exposition aussi des 40 ans. Le festival est du coup plutôt resserré cette fois-ci sur une semaine à Paris, dans le Théâtre de l'Alliance française, qui a été durant de nombreuses années le lieu d'accueil à Paris des spectacles programmés par la Maison des Cultures du Monde. À présent, nous travaillons aussi énormément avec des salles un petit peu partout en France. Mais cette année, il a été décidé de revenir à ses origines et pendant une semaine de proposer une programmation parisienne. Il y aura quand même une programmation à Vitré, au Centre culturel Jacques Duhamel, avec un ensemble de femmes qui vient tout juste de se constituer. Donc voilà, pour l'instant, je n'en dis pas plus, mais il faudra guetter la programmation.
Et quelles sont les dates du coup du Festival de l'Imagine ?
Ce sera en octobre, à partir du 8 octobre jusqu'au 15.
Eh bien, on fait tout de suite une escale pour une seconde pause musicale.
Cái ba nấn na nó đầy tao thích thương khao khi nó ông bà ni dù chẳng đầy sen chỉ cày cần lắm nhắn chăm mơ lìm lại kiếp mà khai quam nó ông kiếp mà tròn quam tuân nhắn chăm đầy mẹn bỏ lìm nơi nó โอ้น้อเป็นจังใดเงินน้องสาวเมืองพัวน้อคนเก่งดังจันเพ็งอยู่ฟ้ามาพอบ่อยากมีแสนเต็มทีตั้งอ้ายตัวไก่จะยังห่วงเจ้าผู้ดวงดอกไม้ใจน้องจะเปลี่ยนแปลงนะน้องนะโอ้น้อยให้น้องของคอยอ้ายสามสายอ้ายกับตาน้องอย่ามีไม่สนก่อนน้องจะเปลี่ยนใจอ้ายนี่ไกลจากน้องหาเงินคำนั้นมาแต่งสาวแก้มแดงหูหูอย่าลืมสู้ผู้อยู่ไกลได้น้องเด้อโอ้น้อพ่อมาถึงตอนท้ายลำคออวยลาลงปงเสียงลำขับควันไว้แทบพอเพียงนี้จงอยู่ดีเด้อน้องใจกายอย่ามองมนมุดทุกคนพี่น้องสบายพร้อมกูสู่คนเด้อน้องเออลาลงตอนนี้แล้ว
Nous sommes dans Tonnerre de Brecht sur Syllab en compagnie de Camille Golland, chargée des projets culturels et des publics à la Maison des Cultures du Monde de Vitré, pour nous parler de l'exposition du terrain à la scène 40 ans de découverte des spectacles du monde.
Et d'ailleurs, la question que je me posais depuis le début de l'émission, c'était pourquoi Vitré pour la Maison des Cultures du Monde ?
À l'origine, Vitré a été conçu comme pensé comme une annexe de la Maison des Cultures du Monde pour accueillir son centre de documentation et toute une programmation d'exposition. L'idée, c'était d'avoir un pendant des spectacles de la programmation parisienne en région pour pouvoir proposer d'autres choses avec des bâtiments aussi plus importants et voilà, notamment la programmation d'exposition.
Et cette exposition du coup retrace 40 ans de découverte de spectacles du monde. Pourquoi décider aujourd'hui de montrer au grand public tout ce processus de prospection et d'archivage ?
Alors déjà à la faveur des 40 ans de la Maison des Cultures du Monde, on trouvait intéressant de, pour une fois, mettre en valeur les personnes qui travaillent, qui œuvrent toute l'année, et ce depuis du coup 40 ans, à la connaissance des cultures du monde, à leur diversité. Et c'est vrai que ce sont des métiers qui sont souvent méconnus du grand public. On se demande un petit peu ce qui se passe en coulisses. On n'a pas forcément l'habitude, en tout cas, on n'a pas forcément une idée du travail qui peut être investi derrière la programmation, par exemple, d'une douzaine d'artistes qui va venir d'un pays africain, par exemple, ou asiatique, et qui parfois n'ont pas forcément eu l'habitude de jouer leur spectacle en dehors de leur pays. Donc c'est tout un travail qui va être à la fois identifier ces personnes, rentrer en contact avec elles, leur proposer d'adapter aussi leur spectacle à un contexte scénique. C'est pas forcément toujours évident. Et puis il y a toute la production derrière qui est très importante et qu'on a vraiment voulu mettre en valeur. C'est des petites choses, mais qui permettent aussi de comprendre qu'il y a des métiers derrière et des gens qui œuvrent.
Et est-ce qu'on peut dire que l'exposition, c'est une étude ethnologique des ethnologues?
Je ne sais pas si j'irai juste là, mais c'est plus une mise en valeur aussi du travail d'ethnologue, qui n'est pas toujours très bien compris du grand public. C'est un mot qui peut faire un peu peur parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Donc voilà, l'idée c'était plutôt de mettre en valeur le travail des ethnologues et aussi le travail des programmateurs et le travail des personnes qui vont faire la production, finalement d'un bout à l'autre de la chaîne.
Mais pour revenir sur cette histoire de mise en valeur du travail d'ethnologue, il y a eu en 40 ans aussi une évolution du travail d'ethnologue, je veux dire éthique, tout ça, il y a eu un vrai mouvement. Est-ce que c'est quelque chose qui ressort aussi dans votre exposition ?
Nous avons plutôt voulu mettre en valeur différents projets. Évidemment, les projets qui ont été menés il y a 40 ans ne seraient pas menés de la même manière à l'heure actuelle, puisque, oui, comme vous l'avez dit, les mentalités changent, on a une autre manière d'approcher aussi les personnes, les différentes populations. Ce regard, réflexif sur vraiment la matière ethnologique, on ne l'a pas porté de cette manière-là. C'était plutôt montrer ce qu'est le travail d'ethnologue, comment est-ce qu'il peut s'intégrer dans un travail de programmation et comment la programmation va aussi pouvoir nourrir la recherche.
On se rend bien compte que 40 ans d'archives ne peuvent être exposés dans leur entièreté. Alors quels sont les spectacles que l'on peut découvrir lors de cette exposition et comment se font les choix des œuvres exposées ?
Nous avons constitué un comité qui était constitué d'anciens collaborateurs de la Maison des Cultures du Monde et de collaborateurs actuels qui ont fait une sélection des spectacles qui leur semblait être important, intéressant à mettre en valeur du point de vue justement de la complexité de la mise en scène sur une scène française, parce que une décontextualisation parfois très importante. Ou alors l'autre sélection était faite autour des collections qui sont conservées, donc des collections d'objets qui sont conservées par la Maison des Cultures du Monde. Puisque en 40 ans, il y a eu aussi l'achat de différents instruments de musique, de masques, de costumes issus de ces spectacles. Et cela a constitué une petite collection qui fait tout à fait sens avec les archives, qui complète parfaitement les archives qu'on a évoquées précédemment. Donc c'est aussi à partir de ces objets-là qu'a été conçue l'exposition. Pour la plupart, des masques et des costumes assez impressionnants. Pour que visuellement aussi on prenne la mesure de ce que pouvaient être ces spectacles et ce que sont toujours ces spectacles.
Et comment ça se passe du coup pour comprendre un peu plus la chose, l'adaptation entre le moment de la représentation de ces formes spectaculaires en scène en France et leur pratique dans leur pays d'origine sur le terrain? Autrement dit, comment se passe la production du spectacle?
Alors, les spectacles, quand ils sont amenés en France, évidemment, ne vont pas prendre la même forme, surtout s'ils sont joués sur une scène de théâtre, alors qu'il peut s'agir parfois d'une déambulation en extérieur sur une scène de village. Le public est tout à fait au courant qu'il s'agit d'une décontextualisation, mais ce déracinement doit, en tout cas ne doit pas non plus totalement dénaturer le spectacle. Et c'est là que l'équilibre est très précaire, et c'est aussi là la force des spectacles proposés par la Maison des Cultures du Monde, puisque en amont, c'est une collaboration, en tout cas des discussions qui sont très importantes avec les artistes pour leur donner un certain cadre qui est tout simplement la durée du spectacle, puisqu'on ne peut pas jouer forcément toute la nuit ou pendant 24 heures devant un public français, donc il va falloir limiter peut-être à une heure. Donc ils fassent une sélection de ce qui leur paraît le plus représentatif, trouver une entrée, trouver une sortie, avoir des petits codes qui vont déjà montrer en tout cas un aperçu de ce qu'est ce spectacle. Et puis à côté, il y a un travail aussi d'écriture. Nous produisons pour chaque spectacle des feuilles de salle, des livrets qui sont très complets, qui expliquent justement quel est le spectacle dans son contexte original. Et puis nous faisons appel, quand cela semble nécessaire, à des chercheurs qui sont spécialisés dans ces spectacles, qui peuvent intervenir en amont de la représentation pour expliquer, pour faire comprendre au public aussi ce qu'il va voir et comment cela est joué dans un contexte, normal.
Et parmi toutes ces adaptations, quelles ont été les contraintes les plus fortes rencontrées pendant ces 40 ans ?
Je pense que les contraintes les plus fortes ont surtout été c'est plutôt une question de lieu. En tout cas, ce que j'en ai perçu, moi, une question de lieu. Par exemple, faire venir les marionnettes sur eau du Vietnam dans les années 80, c'était quand même un certain défi. Puisque c'est donc un spectacle qui est traditionnellement joué dans des marais, au Vietnam, et ce sont des marionnettes qui vont évoluer sur l'eau avec les marionnettistes qui sont immergés dans l'eau. Donc faire venir ça sur une scène, c'était assez compliqué, et Sherif Khaznadar en parle très bien lui-même, donc ça fait partie des petites capsules vidéo qui sont d'ailleurs présentées dans l'exposition. Il a fallu imaginer un système de piscine, une manière de colorer l'eau aussi pour lui donner un aspect un peu marécageux. Tout ça, ça a été vraiment des semaines de réflexion. Et puis comment faire venir ces troupes qui sont normalement constituées d'une quarantaine, soixantaine de marionnettes, puisque chaque famille va avoir ses propres marionnettes et ce sont originellement des sortes en tout cas de défis entre familles, des concours entre familles autour des marionnettes. Là, on ne pouvait décemment pas faire venir une soixantaine de personnes pour le spectacle, que ce soit dans les années 80 ou encore à l'heure actuelle. Donc il a fallu aussi faire des choix, trouver des choses qui puissent être représentatives de certains personnages et recréer finalement ce spectacle-là à partir du spectacle d'origine. Et c'est un spectacle qui a très bien fonctionné puisqu'il est revenu plusieurs fois en France par la Maison des Cultures du Monde, mais aussi il est maintenant très connu au Vietnam, c'est vraiment une attraction touristique quasiment. Donc c'est...
Et justement, comment est-ce que vous adaptez, comment est-ce que vous gérez le lien avec ces personnes qui sont a priori pas forcément toujours des artistes, puisqu'il s'agit parfois de rituels aussi, comment est-ce que vous convertissez ces rituels en spectacle, et surtout comment c'est reçu pour ces personnes pour qui ça relève peut-être pas du quotidien, mais en tout cas pas du spectacle.
Alors, il s'agit quand même toujours de formes spectaculaires qui sont, en tout cas, qui ont une ambition d'être jouées devant des gens. C'est pas des gens qui vont faire des petites choses dans leur coin pour eux-mêmes. C'est pas des formes qui vont survenir dans la nature comme ça, sans aucun contexte. Il y a toujours, à un moment donné, une intention de montrer cela devant, devant un public. Donc, finalement, ces personnes-là, même si ça, elles ne sont pas forcément des artistes professionnels au sens où on l'entend en France, ça reste quand même des personnes qui savent jouer devant des gens. Et l'adaptation, en tout cas, n'est pas si difficile du point de vue artistique parce qu'ils sont capables de jouer devant des gens. Ils ont l'habitude d'avoir un public. Le public, par contre, est différent. Les interactions ne vont pas forcément être les mêmes. Il faut trouver des subterfuges parfois. Mais finalement, c'est pas tellement aux professionnels de la Maison des Cultures du Monde de dire aux artistes ce qu'ils doivent faire pour que le spectacle fonctionne en France. Ils doivent plutôt donner un cadre, mais c'est vraiment les artistes en tant que tels qui vont emmener leur sensibilité, avec leur sensibilité, vont pouvoir amener leur, voilà, leur forme, montrer en tout cas leur art à un public français. Et voilà, c'est plutôt comme ça que ça se passe.
Et je suis intrigué par quelque chose parce que vous aviez dit que dans les collections on trouve des costumes et des masques, alors que souvent à la fin de ces formes spectaculaires traditionnelles on détruit les masques. Comment c'est possible que vous ayez ça du coup ?
Alors ça dépend. Hein. Là, on... En fait, il y a effectivement dans certaines cultures, voilà, dans certains pays. Des instruments de musique, des masques qui vont être détruits après le spectacle. C'est pas la norme. Donc nous, on a pu aussi acheter directement des masques, des instruments de musique, voilà, parce que c'était négocié en amont, ou alors ça a pu être aussi faire l'objet de cadeaux. Je pense que vous faites référence en fait aux masques du Vanuatu, qui sont des masques de danse. Qui sont donc faits avec des matériaux assez intéressants, en toile d'araignée, avec voilà, surmodelés, avec on a aussi des plumes d'oiseaux, enfin des choses très intéressantes. Effectivement, à la fin des cérémonies, ils sont détruits, ils sont brûlés. Donc, pour les faire venir en France, ben, il a fallu faire une commande spéciale de masques pour le spectacle. En disant bien, en précisant bien que ces masques-là ben, ne seront pas brûlés à la fin, mais resteront en France, à la Maison des Cultures du Monde, et intégreront les collections. Donc c'est comme ça que s'est négociée la venue en France de ces artistes.
Et comme ces masques-là, dans cette tradition-là, sont éphémères comme l'art peut l'être aussi, est-ce qu'on a la possibilité de retrouver ces formes spectaculaires traditionnelles sur d'autres formats que des archives ? Par exemple, décédé.
Oui, nous avons des... Alors, la Maison des Cultures du Monde a un label de disques qui s'appelle Inédit, sur lequel on peut retrouver des enregistrements de... Voilà, soit des enregistrements de terrain ou alors des enregistrements de spectacles. Et voilà, c'est aussi une matière qui est assez riche pour les personnes qui s'intéressent aux formes d'expression traditionnelles du monde.
Question ultime. Dans un monde globalisé qu'il est difficile d'imaginer sans ordinateur, sans téléphone portable, dans tout ce qui va avec, pour reprendre les mots de Shérif Kaznadar, y a-t-il encore des formes traditionnelles à découvrir ?
Visiblement, oui. Et puis, puisque chaque année, on arrive à proposer des choses qui sont, on va dire, assez méconnues. Évidemment, on fait aussi revenir des formes qui avaient été proposées, présentées des années en amont. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on fait revenir ces spectacles, peut-être 10 ans, 20 ans ou 30 ans plus tard, eh bien, ils ont évolué. Puisque tout évolue, rien n'est jamais permanent. C'est la force du patrimoine culturel immatériel. C'est justement quand un patrimoine prend sens pour une communauté, et va vivre, évoluer au gré de l'évolution de la société qui le porte, eh bien, il va être comme ça témoin de cette évolution et il ne va pas mourir, il va plutôt subir des transformations, des mutations, et ça, c'est intéressant.
Ce sont sur ces mots que s'achève notre émission.
On rappelle que l'exposition Du terrain à la scène est visible à la Maison des cultures du monde de Vitré jusqu'au 18 septembre prochain.
On remercie grandement Camille Golland de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission et d'avoir répondu à nos questions.
On se retrouve la semaine prochaine et pour débuter ce mois de juin, nous aurons la chance de recevoir deux autres binômes du Conservatoire de Rennes pour de nouvelles lectures musicales.
D'ici là, prenez soin de vous
et des bisous.
Pourquoi je fais du théâtre ?
Le théâtre n'existe pas.
C'est Corneille qu'on assassine.
Les grands acteurs rêveront de jouer Cyrano, les jeunes actrices rêveront de jouer Roxane. Et
tout le monde se souviendra du nom d'Edmond.
Et tout le monde aura oublié le nôtre.
Une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux.
Tonnerre de Brecht, votre rendez-vous théâtral sur Syllabes.